Bonjour. Bonjour. Ah. Bienvenue dans le deuxième podcast des ateliers d'écriture du dimanche, qui ont lieu un dimanche sur deux au bar associatif des Tétards, au 7 rue de la Bride à Périgueux. Ouais. Cet épisode propose la lecture de 7 textes, écrits donc aujourd'hui le 8 mai 2011, place Francheville à Périgueux. Sur le thème du journal intime d'un objet. On participait à cet atelier, donc Philippe, les deux Céline, les deux Hélène, nous avons Clément, Christophe, Jean-Marc, Landry et moi, Sylvain. Et donc, d'accord. Bon, ben maintenant, installez-vous confortablement, ouvrez bien grand vos oreilles et que la magie de l'écriture opère.
Alors, journal d'un phare. Lundi 2 mai. Aujourd'hui fait beau. J'irai bien faire un tour en bateau. Ça fait un bail. Je crois que la dernière fois, c'était le Titanic. Ah ben non, je suis con. Il y a eu aussi la Mokugadis et l'Erika. Mardi 3 mai. Je prends ma caisse pour aller jusqu'à Brest. Le temps est orageux. Le mardi, c'est le jour de ma réunion des indépendantistes bretons. Devant le peu d'effet de nos actions, je m'énerve. Dans un éclat de voix, propose de prendre des armes et de balancer des pruneaux à tous ceux qui se mettraient en travers de notre chemin. Fou rire général. Je sais pas pourquoi. Mercredi 4 mai. Je dois retourner à Brest. À la rue, j'ai oublié mon ampoule. Pour la nuit, heureusement que Baleine, c'est un collègue, en avait une de rab. Sur le retour, les flics, ils me font bien rire cela avec la puissance de leur fâche. Je veux prévenir un autre automobiliste en face qui roule un peu vite. Je lui fais un appel de phare. Merde, le type est aveuglé, la voiture fait lambarder. Jeudi 5 mai. Ce matin, j'ai vu le médecin. Selon lui, je dois arrêter le sel. Ça va être dur. Sans compter mes problèmes de pied. Il me prescrit encore des bains de pied au Karcher et me dit de ne pas perdre confiance. À force, le mazout va partir. Vendredi 6 mai. Dans le journal, il parle du type qui a fait une embardée près de Brest. C'était un breton pur jus, producteur de pommes. Il a été retrouvé aplati comme une crêpe. Samedi 7 mai. Non, c'est pas ici la boîte de night Brest Nose. Il y en a encore qui ont confondu avec moi. Dimanche 8 mai. Week-end en Aquitaine, chez ma copine, pas d'Irak.
Journal d'une boîte d'allumettes. Lundi 3 janvier. Grande discussion avec les amis sur le présentoir du buraliste. Sujet, va-t-on nous acheter? Quel est notre but de vie? 18h. Mon Dieu, quelle émotion! Je viens d'être acheté, juste avant la fermeture. Un homme qui avait perdu son briquet. Mardi 4 janvier. C'est pas un gros fumeur. Je me sens frustré. Il m'utilise si peu, me serre sans douceur dans ses mains. 21h. Il a retrouvé son briquet. C'est un lâche abandon. Que vais-je devenir? Mercredi 15 juillet. Mais que se passe-t-il? Pourquoi m'a-t-il retiré de mon tiroir? Tiens, nous avons pris la voiture. Départ pour la campagne, je pense. Il m'a mise dans le coffre avec des bidons divers, portant des mentions bizarres, inflammables, essence, et avec tout plein de vieux papiers. Jeudi 14 juillet. Ah, le coffre s'est ouvert. Je me demande où nous avons atterri. Il y a de grands arbres autour de nous. Des pins, je pense. Ils sentent comme le bois de mes petites chéries. Tiens, il accumule le papier sous un vieux tronc sec. Mets un produit dessus. Je ne comprends pas. Ce que font les hommes. Ah mais, il me prend dans sa main. Quelle douce sensation. Je suis vraiment né pour être caressé. Tenu par des mains. Je le sens au plus profond de moi. Bouh, il m'a ouverte. Enfin, au bout de 6 mois. Et il prend une des petites chéries. Et là, il m'allume. Et là, tiens étrange, il n'a pas de cigarette à la bouche. Et il approche la petite chérie du tas de papier. Mon Dieu, quelle explosion! Enfin, je crois qu'on dit cela. Tout est en feu, et l'homme court. Vendredi 17 juillet. Nous ne sommes pas sortis de la chambre d'hôtel où il a porté tout le monde. Il regarde la télé devant les informations. Il fait des trucs bizarres en poussant de drôles de cris. Des trucs d'humains, sûrement. Surtout devant les images de forêt en feu. Samedi 18 juillet. La porte a explosé vers 8 heures. Des hommes habillés en bleu sont entrés et ont tout embarqué. Nous avec. Je me retrouve sur un bureau avec un des bidons qui lui aussi se demande ce qui se passe. L'homme est là, d'un côté du bureau, de l'autre, un bleu. Enfin, maintenant, ils sont deux. Ils ont pris un gros livre et lui tapent sur la tête. Je crois que c'est cela ce que veut dire l'expression « être imprégné de ses lectures ». 23 heures. Nous sommes séparés. Lui dans une petite boîte, nous dans une autre. Une nouvelle chambre dans un hôtel appelé, bizarrement, pièce à conviction. Dimanche 20 octobre. Enfin, nous sortons prendre l'air. On visite un chouette château avec plein de figurants. Ça s'appelle le palais de justice. 18 heures. De nouveau enfermé. Je me demande ce que tout ça veut dire. Lundi 21 octobre. J'ai trouvé. Le palais de justice, c'est un théâtre. Et nous sommes des acteurs. Ben oui. L'homme s'est fait siffler. Bizarre, il n'a encore rien dit. Pourtant, quand il est entré avec deux bleus, nous, nous assistons à ça, sur une table. Mardi 22 octobre. Nous sommes définitivement séparés. L'homme a disparu. Nous, on nous apporte dans un coin bizarre. Vacances, je ne sais pas. Peut-être un nouvel hôtel, appelé tout aussi bizarrement four crématoire.
Merci.
Top. Journal d'un petit sac à main. Lundi. Quelle vie de sac à main. Pour elle, le lundi, c'est la lessive. Elle me vide de tout mon contenu, me secoue par la fenêtre. J'ai peur du vide. C'est haut, 4 étages pour un si petit sac à main. Ensuite, elle me plonge dans une bassine, dans une espèce de liquide chaud et plein de bulles, et je trempe. D'abord, j'ai chaud, trop chaud. Je sens que je perds mes couleurs, je deviens pâle. Ensuite, je me sens bien, pour un moment. Finalement, je baigne dans une eau crasseuse et j'ai froid. Mardi, elle me frotte, elle me malaxe vigoureusement. Elle me rince, elle m'essore, elle me secoue. C'est une horreur. Et elle me suspend la tête en bas, j'ai la nausée. De temps en temps, elle passe, elle me tâte de ci, de là, me décroche du fil, me secoue encore un peu et me resuspend, la tête en bas. Bien sûr, la nausée revient. Mercredi, elle me tâte, toujours suspendue au fil à linge. Elle me libère, me tâte encore. Ultime sévice, elle branche un petit appareil électrique qui fait un bruit assourdissant et qui chauffe. C'est une horreur. Un jour ou l'autre, elle va me transformer en pucelle d'Orléans. Ouf ! Le bruit s'arrête, la chaleur aussi. Je suis sauvée pour cette fois encore. Évidemment, j'ai le ventre vide. Alors elle commence à me remplir. Porte-monnaie, clé, agenda, un peu de ceci, un peu de cela. Je dis, je suis modérément chargée, je m'en contenterai, mais non, elle, ça ne lui va pas. Elle me sort aujourd'hui. Je vais être trimballée à son épaule, sous le soleil ou sous la pluie, on ne sait jamais, comme le prolongement d'elle-même. Alors elle en profite. Son amoureux lui a écrit. Elle me fourgue sa lettre à l'intérieur. Tant qu'elle y est, elle me fourgue celle de la semaine dernière et toutes celles des mois passés. Ça commence à peser. Vendredi. Elle a une journée bien chargée. Plusieurs rendez-vous. Alors elle a besoin de son portable. Il pèse comme un âne mort, ce machin-là. Elle ne sait pas qu'il en existe des modèles bien plus petits et bien plus légers. Samedi, j'ai la panse renflée, la couture craquante. J'aimerais bien qu'elle m'allège un peu. Que nenni ! Elle a rendez-vous tard le soir. Elle a peur de se paumer. Alors elle ajoute une lampe torche. Énorme ! Je vais éclater. Dimanche, jour de repos ? Je ne sais pas encore. Au moins, elle enlève la lampe torche. Je reprends une forme plus esthétique. Ma ligne s'améliore. J'espère qu'elle ne va pas me sortir aujourd'hui. J'aimerais bien rester vautrée sur le coin de plancher sur lequel elle m'a sauvagement jetée. Mais maintenant que je suis par terre, un tantinet meurtri quand même, j'aimerais bien flémarder un peu. N'y a-t-il pas de dimanche pour les sacs à main ? Ah, dormir, en évitant de penser au lundi. Lundi, jour de lessive.
Journal d'un piano d'études. Jour 1, 1992. Sorti de la manufacture, l'accordeur a plaqué quelques accords sur mon clavier pour vérifier que ma sonorité était potable. No problemo, man. Je me découvre livré à la conscience d'instruments de musique. J'ai pas de queue, je suis droit, non alarqué. Je ne sais pas où je vais. De toute façon, bois de jazz ou pavillon d'une famille bourgeoise, c'est dans mes cordes. Jour 2. 1992. Me voilà dans une famille. Un gamin, dont la tête n'atteint pas mon clavier, commence à me poignasser, à soulever ma mâchoire. Ce couvercle qui recouvre mes dents, enfin mes touches, mon clavier. Allez, hop, il appuie sur une note. Il s'assoit sur un siège devant moi et toc, allez, une mélodie. Ok, gamin. Apparemment, on va faire un bout de chemin ensemble. Alors si tu veux me toucher, évite de te mettre du chocolat plein les doigts. Ou lave-toi les mains. Bon, je déteste pas ces caresses. Jour en 2000. Ça fait un bout de temps que je suis là. Je ne compte plus les jours. Le gamin, il a grandi. Il fait plus que de jouer des mélodies maintenant. Mais il oublie parfois qu'il n'est pas en train de casser un mur de briques. L'autre jour, il s'est énervé. Trop de fausses notes, main maladroite. Il a fini par plaquer un accord improbable et irritant. Il s'est levé à hurler un « Putain !» Hé, calme-toi, Duglan, joue plutôt du Satie. On repartira sur cette foutue fantaisie impromptue un peu plus tard. Jour, bon, allez, en 2005. Gros délire avec le gamin. On a enchaîné un sacré programme. Un prélude de Rachmaninoff, la danse macabre de Saint-Saëns, les jardins sous la pluie de Debussy. Le petit a enfin appris à se maîtriser. Il ne tape plus le clavier. Il court sur mes touches, fait chanter mes cordes. Drôle de manière de s'envoyer en l'air. Et pourtant, on fusionne. Il sait quelle caresse me fait frémir, quel coup me fait crier. On fusionne, moi, lui, la musique. Il n'y a plus de mouvement, plus d'autour, plus rien à part le son. C'est vraiment trop bon. 2011. La loose. Ça fait un bout de temps qu'il ne m'a pas touché. Il me préfère un truc électronique avec plusieurs sons. Plus pratique, qu'il dit. Moi, je suis trop lourd. L'autre, il peut le transporter. Moi, je suis trop fragile. Il a peur de faire changer mon son. L'autre, il est invariable. Rien qui change, aucune âme, juste des sons. La loose, quoi. Mais un jour, il reviendra au vrai, le petit. Un jour, il comprendra que son bloc d'électronique ne vaut pas ma vieille carcasse de bois pleine de vie, d'émotions et de mémoire. Je suis un piano, un vrai. Et un clavier électronique ne pourra jamais me prendre cette fierté.
Journal intime d'une machine à faire des trous dans le gruyère. Lundi, livraison des meules de fromage à l'aube. Elles arrivent entières, sans trous, et sont roulées jusqu'à la salle carrelée où elles sont radiographiées. On vérifie qu'elles n'ont aucun orifice naturel caché. Mardi, les meules sont triées. Celles qui sont vierges de tout trou, c'est-à-dire bien pleines, notez le paradoxe, sont roulées jusqu'à la salle de travail. Les autres meules, pré-percées, on les appelle les trépanées entre nous, sont râpées sans pitié et mises en sachet. Mercredi. Les meules vierges patientent toujours dans la salle de travail. Moi, je me fais huiler les pistons et affûter la lame. Jeudi, mes pistons sont brillants et ma lame coupante. On m'emmène une meule vierge. Je la transperce de part en part. Elle ne crie pas, moi non plus. Vendredi, me suis perforé un camion de meules vierges. J'en peux plus. J'en peux plus, ça fait au moins 2894 trous. Je suis crevée. Samedi, grand nettoyage. J'ai du gruyère collé partout. On a beau avoir l'habitude et une lame aiguisée, il y a toujours des dommages collatéraux et des morceaux qui collent. Me lave à grande eau. Dimanche, dodo. Mon harem de meules gît près de moi. Elles sont toutes très lasses d'avoir été perforées. Elles se reposent et moi aussi. Quelle vie.
Le journal d'une chaussure. J'ai une sœur jumelle, 1er mai. J'ai une sœur jumelle. Je l'ai toujours eue. Aujourd'hui, nous avons passé la journée dans la même boîte. On nous a bordé de papier et placé en quinconce. C'est agréable. 5 mai. Aujourd'hui, on m'a fait des points de suture avec un gros fil blanc. À ma sœur aussi. Ce n'était pas douloureux, mais particulièrement désagréable. Maintenant, j'ai l'impression de porter un corset. 6 mai. J'ai été piétiné par des pieds malodorants. Trop grand pour moi en plus. Heureusement, ça n'a pas duré. Nous avons été remis dans notre boîte. 10 mai. Encore une journée à être essayé, piétiné, embroché. Les pieds qui suent et qui collent, je ne peux plus les sentir. J'ai aussi remarqué que nous étions des centaines dans ce lieu à être enfermés. Ça doit être une prison. 15 mai. Aujourd'hui, des pieds nous ont essayé plus longtemps que les précédents. Ensuite, nous sommes retournés dans notre boîte. Quand elle s'est de nouveau ouverte, on nous a enlevés et placés en compagnie d'autres congénères. des nouvelles têtes qui vont peut-être pouvoir nous expliquer ce que nous faisons là. Par bonheur, je n'ai pas été séparé de ma sœur. 16 mai. Les autres sont très bavards. Certains ne savent dire que bonjour. D'autres répètent « il fait froid » alors qu'elles sont pleines de fourrure. D'autres sont juchés sur une jambe de bois. Il doit s'agir d'un asile de fous. Je prie pour ne pas être séparé de ma sœur. 20 mai. Nous sortons souvent en ce moment. Lorsqu'on nous repose dans ce que tout le monde semble vouloir appeler le placard, nous sommes exténués et moites de transpiration. 22 mai. Une rumeur court dans le placard. Il y aurait, au-delà de la grande porte, un monstre qui vivrait. Il prendrait un malin plaisir à mordre et à lacérer les personnes comme nous, sans même nous manger. J'en ai froid dans le dos. 25 mai. Je l'ai vu, le monstre. Il a quatre pattes, un pelage beige et une gueule béante, d'où coule un filet de bave permanent. Il est passé à côté de nous et a saisi entre ses dents pointues les deux que l'on nomme les chaussons. Plus tard, on nous a dit que ce n'est pas de lui qu'il faut avoir peur, mais d'un plus petit, plus jeune, plus fou. 29 mai. Je n'ai plus de raison de vivre. Et de toute façon, je n'en ai pas pour longtemps. Ma sœur a été prise par le jeune monstre. On nous avait laissés à l'extérieur, toutes les deux, après une longue promenade, et il est arrivé en courant. Il a saisi ma sœur et l'a secouée en grognant. Il a joué avec elle pendant de longues minutes. Quand c'était fini, elle était déchiquetée, méconnaissable. Depuis, je ne sais pas pour quelle raison, on m'a placé dans l'antre du monstre. Il paraît que c'est ce qui arrive lorsqu'une paire est cassée. Pour l'instant, il m'a flairé, mais il ne m'a pas touché. Et ce soir, je sens que je vais subir le même traitement que ma sœur.
Aujourd'hui, comme tous les jours, je me suis réveillé en compagnie de mes frères, bien serrés, immobiles. La lumière était allumée depuis plusieurs heures, quand soudain tout bougea. Nous fûmes jetés, secoués. Je me retrouvais tour à tour à côté de Paul, Michel, Kevin, Robert. C'était cool. Je ne les avais pas revus depuis une éternité, depuis le dernier grand mouvement, en fait. On a eu quelques répliques du séisme, puis plus rien. Le noir, beaucoup trop tôt. Je m'endors un peu inquiet. Mardi. Ce matin, j'ai cru que la lumière ne viendrait jamais. Et puis enfin, elle revint. Nous avons été un peu secoués avant qu'un grand craquement nous saisisse d'effroi. Notre sachet avait été éventré. Ça ne présage rien de bon. Le reste de la journée fut sans histoire, mais on est sans nouvelles de Robert. Je suis encore un peu inquiet. Mercredi. Décidément, la lumière est rare ici. Et quand elle arrive, on flippe un peu. J'ai essayé de retrouver Robert, mais personne ne semble l'avoir vu depuis hier. Et depuis cet après-midi, il semblerait que Kevin ait aussi disparu. Hélas, je suis tout en dessous, au fond, et je ne vois pas grand-chose. Mais des rumeurs bizarres circulent. Jeudi. La journée était calme et noire. Pas de nouvelles disparitions. Mais une rumeur venue du dessus raconte qu'on aurait vu le papier de Robert. Vide. Bah. Mes frères ne savent plus quoi inventer pour nous faire peur. Vendredi. Je n'ai rien compris à ce qui s'est passé aujourd'hui. Ce soir, nous ne sommes plus qu'une dizaine. Tous ont disparu tour à tour, parfois seuls, parfois par groupe de 4 ou 5. Pierre essaye de nous convaincre que c'est formidable, que ce sont les élus qui ont été appelés à une nouvelle vie meilleure, baignés de lumière, débarrassés de nos papiers grossiers inutiles. Ouais. Paul l'écoute, fasciné. Moi, je flippe. Samedi. Eh bien, pour la vie meilleure et baignée de lumière, c'est raté. C'est ce midi que mon tour est venu. Je n'ai pas eu le temps d'avoir peur. Je me suis retrouvé à nouveau plongé dans le noir. Mais je ne suis plus dans le sachet. Et j'ai toujours mon papier. Ouf. Drôle de coin ici. C'est plein de miettes. J'ai fait la connaissance d'un drôle de type. Il n'est pas très causant. J'ai juste réussi à comprendre qu'il s'appelait Sarah. Une clé, à ce qu'il dit. Il va et vient souvent. Et à chaque fois qu'il revient, il râle que sa cocotte lamente grave. Je comprends rien. Dimanche. La lumière, enfin, et l'étrange sensation du papier qu'on m'enlève. J'ai froid et puis soudain, le noir, une douce chaleur humide. Pierre s'est complètement trompé, c'est beaucoup mieux que ce qu'il disait. Je me laisse fondre dans cette moiteur douce, je rejoins lentement le grand tout. Je dilue mon existence. Maman, Malika a mangé le dernier bonbon à la menthe.
Alors, journal d'un réveil à clochette. L'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt. C'est tout du moins ce que j'ai déjà entendu à la radio. Je déplie mes premières clochettes à 5 heures, avec délicatesse, pour moi et pour l'homme que je dois réveiller. Une agitation trop sonore me vaut une grande claque, m'envoyant parfois bouler sous le lit. Et je reste alors abandonnée, recroquevillée, toute une longue journée. Mais aujourd'hui, c'est réussi. Un tintinabulement léger, approprié à la douceur de ce mois de mai. Une caresse sur la tête, je m'arrête. 7 heures, ce sont maintenant les enfants que j'ai en charge de réveiller. Là, pas de quartier. Mes clochettes se transforment en trompettes, car c'est le seul moyen d'amener... Seul moyen d'amener du fin fond du lit à faire émerger quelques frumous embrumés. 8 heures, tout le monde est parti. Et ce, au moins, jusqu'à 5h30. Croyez-vous que cela m'ennuie? Que nenni. Je mets mes clochettes en ordre de bataille. Chacune se concentre sur sa partition. Faire résonner le tonnerre, l'éveil de la terre, saluer les 4 saisons. En ce mois de mai, je m'attache à évoquer la naissance du muguet. Vous l'avez compris, je travaille à ma symphonie, fantastique, romantique, mon chef-d'œuvre pas encore abouti. 17h30. Je me planque, les fauves sont lâchées. Ce que je crains par-dessus tout, ce n'est pas tant les gestes brusques, mais les doigts pleins de miel, le chewing-gum pervers, la main encore humide, tout ce qui peut désaccorder mes belles clochettes. Il ne faut pas leur en vouloir, ils ne voient en moi qu'un banal réveil et pas l'artiste qui sommeille. Mais quand arrive 21h, ce sont des berceuses qui animent mes clochettes, pris comme toujours d'un mouvement de tendresse pour ces petits sans mère. 22h, dernière musique. Pas seulement les petits ont besoin de se voir souhaiter la bonne nuit, les grands aussi. Un peu de jazz pour accompagner cette fatigue et cette solitude. Fin de la journée, une journée, comme toujours, banale et extraordinaire. 7 mois plus tard. Demain, c'est Noël et j'ai déjà vu emballer un magnifique réveil électronique, informatique et plein de tics. Un passement au cœur, bien sûr. Mais si cette retraite ne se finit pas au fond d'une poubelle, l'occasion de finir ma musique, l'œuvre de ma vie. Non, pas ma musique, l'occasion de finir ma symphonie, l'œuvre de ma vie, et que viva la musica.
Alors, ça vous a plu? Vous avez envie de tenter l'expérience de l'atelier d'écriture? Pour cela, aucun besoin d'être Zola ou Hugo, il vous suffit de vous rendre au local des Têtards lors du prochain atelier. Le prochain, c'est le 22 mai à 16h30 au local des Têtards. C'est gratuit, sans obligation d'achat et ça peut faire beaucoup de bien. N'hésitez pas non plus à commenter ce podcast, à vous y abonner ou à en parler autour de vous. À bientôt !